Les spécialistes.
Voilà, si vous aimez le tennis, ne ratez pas le journal imprévisible de Renaud Blanc. Tout à l'heure, Roland Garros a redémarré dans des conditions assez particulières et une période de l'année totalement inédite. Commençons par la politique avec Louis Alter. Mon cher Louis, bonjour.
Bonjour.
Nous aujourd'hui, après donc le passage ici même d'Edouard Philippe chez David Abiker, le soir à 18h, une nouvelle carte postale d'Edouard Philippe, donc, puisqu'il participera cet après-midi, il participera à un colloque sur le Grand Paris avec conversation avec Anne Hidalgo. Édouard Philippe, qui est en tête dans plusieurs palmarès des personnalités politiques, c'est donc la Philippe Mania, et on se demande à quoi tout ça peut-il servir, c'est-à-dire en gros, quels sont ses objectifs réels.
Ben oui, parce que Édouard Philippe est devenu hype, hein, ça arrive. Avant lui, des personnalités comme Jack Lang ou Nicolas Hulot ont connu cette flatteuse première place des baromètres d'opinion. Alors déjà, ça confirme la règle selon laquelle on n'est jamais aussi populaire que quand on n'est plus au pouvoir. Mais il y a aussi un fait politique derrière cette popularité, hein, une sorte de nostalgie pour ce Premier ministre qui savait trouver des mots précis et concrets pendant le confinement, en parallèle avec un Emmanuel Macron qui se perdait souvent en discours interminable. Et aujourd'hui, c'est un certain Jean Castex qui souffre de la comparaison. On l'a vu sur France 2 la semaine dernière, avec cette émission politique un peu confuse où le successeur de Philippe n'a pas vraiment convaincu, et c'est un euphémisme.
Mais est-ce que Macron ne devrait pas, le président, ne devrait pas se méfier de cet ancien Premier ministre qu'il a relâché dans la nature au fait de sa popularité? Il savait que ça représentait ce risque.
Bien sûr, vous savez qu'on est en France, et en France, dès que quelqu'un est populaire, on glose évidemment sur des ambitions présidentielles, d'autant que, en l'occurrence, la droite cherche désespérément un candidat qui mette tout le monde d'accord. Mais pour l'instant, je vais vous dire, cette histoire de Philippe 2022 ne tient pas debout. D'abord parce que personne chez les macronistes ne le voit trahir un président à qui il doit tout ou presque. Et d'ailleurs, signe qu'il est toujours dans les parages, Édouard Philippe doit déjeuner demain avec Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, qui est l'un des plus proches de Macron. Et à l'Élysée, on assure que le président et son ancien Premier ministre échangent et qu'ils vont bientôt se voir. Vous l'aurez compris, le message c'est « Édouard Philippe est dans la majorité, pas ailleurs ». Mais vous voyez, cette petite musique, en fait, elle traduit la propension des commentateurs à s'attacher aux personnes et pas aux idées. Parce que, idéologiquement, Philippe et Macron, c'est à peu près la même chose. Si on organisait un débat entre eux, on ne voit pas ce qui mettrait foncièrement en désaccord ces deux énarques quadragénaires aux idées libérales. Et vous voyez venir ma conclusion, Édouard Philippe, en fait, il apparaît en quelque sorte condamné à être la doublure de Macron. Il pourrait être un plan B en cas de scénario catastrophe qui verrait le président empêché de se représenter, une hypothèse envisagée même par certains conseillers de l'exécutif. C'est peu probable, mais c'est déjà arrivé, et c'était il n'y a pas si longtemps.
Voilà, c'était le cas de François Hollande. Petite devinette, 7h45 sur l'antenne de Radio Classique, nous allons marquer une très légère virgule en applaudissant à tout rompre Louis aux haltères. Voici qu'entre en scène Dimitri Pavlenko avec un paquet de dettes sous les bras.
Guillaume Durand sur Radio Classique.
Voilà, c'est la une des échos ce matin. Ce sont les chiffres de ce budget hors norme face à la crise, avec évidemment les banques centrales qui relâchent et qui produisent de la monnaie comme s'il en pleuvait pour justement essayer de combler les dettes et les investissements qui sont faits par l'État et par ce plan. Alors, cette affaire de dette, mon cher Dimitri, oui. Les gens qui nous écoutent savent très bien qu'elles augmentent.
Oui.
Le ministre de l'économie qui est nouvellement revenu, Bruno Le Maire, dit lui-même qu'on ne paiera pas d'impôts supplémentaires, et je vais vous poser la question tout directement, je ne sais pas si cette expression existe, personne n'y croit,
oui, c'est vrai, vous avez raison de vous poser la question. Alors en tout cas, si on regarde les faits aujourd'hui, c'est vrai que les impôts n'augmentent pas, et même la pression fiscale, elle a baissé objectivement. Ouais. Et alors, on avait des doutes sur la taxe d'habitation, sa suppression totale l'an prochain pour les 20% les plus riches, au nom de la crise, finalement, le gouvernement s'engage à maintenir la trajectoire de suppression de la taxe d'habitation. Ça, c'est une bonne nouvelle. Les impôts baissent aussi pour les entreprises. On a dit moins 10 milliards sur les impôts de production.
C'est pour ça que je fais un peu de provocation.
Mais alors, c'est quoi le lien entre la question des impôts et la question de la dette? Parce que cette dette, elle est quand même là. On a vu le programme d'émission qui est prévu par l'Agence France Trésor pour l'an prochain. Il est faramineux. 260 milliards vont être levés sur les marchés. Mmh. On en est déjà au même montant pour cette année, avec une dette là qui file tout droit vers le cap des 3 000 milliards, rendez-vous compte. On va être à 125-130% peut-être bientôt de la richesse nationale empruntée sur les marchés qu'il faut rembourser en vertu de ce bon vieux principe. Hein, qui paye ses dettes s'enrichit, mon cher Guillaume. Mm-hmm. Sauf que ça vaut pour les particuliers, ça vaut pas forcément pour l'État. Alors il y a cette question, vous allez sans doute poser à Patrick Artus, votre invité tout à l'heure à 8h15, cette dette, est-ce qu'il faudra un jour la rembourser? Écoutez, en fait c'est très compliqué. Patrick Artus, son point de vue, c'est que Peut-être c'est souhaitable. En tout cas, sans doute qu'on ne le fera jamais pour plusieurs raisons. D'abord parce que les taux d'intérêt sont tellement bons en ce moment qu'on serait bête de se priver d'emprunter. Que la dette, c'est un roulement. On rembourse constamment ce qu'on a emprunté par le passé. Il y a aussi cette idée qui est quand même fait que les taux sont très bas. C'est que la Banque Centrale Européenne rachète à tour de bras tous les titres de dette qui sont émis aujourd'hui par les États. Donc pour celui qui achète de la dette, il y a cette garantie en dernier ressort.
On peut la transférer à la Banque Centrale.
C'est extrêmement rassurant. Qu'est-ce qu'on va faire de ces dettes? Est-ce qu'on la cantonne? Est-ce qu'on la stérilise dans le bilan des banques centrales? C'est ce que veut la France. C'est ce que se demande aussi l'Italie. Ça plaît beaucoup moins aux pays frugaux. Reste que si cette dette, un jour, les taux remontent, il faudra la rembourser. Qu'est-ce qu'on fera? On comptera sur l'inflation qui augmentera les recettes de TVA, permettra de rembourser. Où est-ce qu'on augmentera les impôts? C'est ce qui s'est produit par le passé. Ce serait la pire des solutions. Cela dit, le pire n'est jamais impossible, mon cher Guillaume.
Ouais, il est 7h48 sur l'antenne de Radio Classique. Vous avez deux malheureux qui vous présentent cette édition ce matin. Dimitri, sa salle de sport est terminée. Oui. Et Guillaume Durand, ses restaurants sont fermés. 7h48.